bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Ouais, salut Nagui.
Bonjour.
Alexis Rossignol. Bonjour. Frédéric Sigris. Bonjour. Tony Pastureau recevra tout à l'heure. Et notre invité, Mazarine Pinchot. Bonjour Mazarine, bienvenue à ce micro. Et commençons par des félicitations pour votre roman publié chez Julliard. C'était à la fin de l'été. Ça s'appelle Se taire. Comment résumer ce livre en quelques mots? C'est une jeune fille photographe, fille d'une belle grande famille populaire. En tout cas, son père est chanteur populaire. Son grand-père est académicien poète. Ouais. Mais n'est plus de ce monde. Il reste la grand-mère qui est un peu la taulière de la famille, la référence. Et puis, elle a une séance photo déterminante à faire, celle d'un prix Nobel de la paix. Cette séance photo va mal tourner puisqu'elle va subir un viol. Elle ne dira rien de ce viol pendant des années. 6 ans avant que son fiancé Fouad la pousse à déposer une plainte qui ne sera finalement qu'une main courante, qui va relancer l'affaire puisque des journalistes vont tomber sur cette main courante et elle va devoir finir par dire ce qui s'est passé. Tout le rapport, toute la problématique étant quoi dire, à qui le dire, comment le dire, que ce soit vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de la police, vis-à-vis des journalistes ou vis-à-vis de son propre fils qu'elle aura quelques années après.
Ouais. Voilà, c'est parfaitement résumé.
Non, mais.
Ah non, c'était bon.
Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais.
Non, Albert,
par toi même,
ça me touche. Autant Mazarine, on peut dire, elle est polie, elle veut pas mal. Toi,
quand on sait à quel point il te déteste.
Ouais, c'est ça, je suis choqué.
Moi aussi, presque. Albert,
je suis choqué. On va en parler parce qu'elle ne se tait pas que sur le viol, elle se tait aussi sur les violences conjugales, elle se tait aussi sur sa propre condition.
Elle est conduite à se taire, c'est un événement aussi qui va bouleverser. Verser toute sa vie en tant qu'individu, en tant que femme, et qui va justement nous permettre de comprendre aussi les choix qu'elle fait dans sa vie.
Elle est née dans une famille connue, célèbre, d'où son silence. Il est évident que quand on connaît votre vie, il y a beaucoup de parallèles ou de questions qui viennent, sachant que ce n'est évidemment pas, heureusement pas, un livre autobiographique. Donc c'est important de le préciser dès le début. Allez, commençons par des questions concernant Mazarine Pinchot, et ensuite nous reparlerons évidemment de ce livre, Se taire. Dès la classe de 6e, Mazarine rêvait d'une profession ou d'une
prof.
Activité. Non.
Présidente.
Politique.
Non.
Fossoyeur.
Non plus.
Médical.
Archéologue.
Écuyère dans un cirque.
Alors,
vétérinaire.
Soit plus précis.
Cavalière.
Non.
Acrobate.
Clown.
Trapéziste. Acrobate.
Non, il va dire non.
Contorsionniste.
Pardon.
Contorsionniste. De chevaux.
Non. Jument.
Non.
Auteur. Écrivain.
Diaboliste.
Actrice.
Oui, exactement.
Quoi?
Actrice.
À quel point vous êtes cirque?
Ah oui, on était vraiment.
Je l'ai dit déjà.
Je vous laissais vous
dépêcher. C'est original, comme rêve de petite fille.
Oui, enfin, sauf que vous alliez un tout petit peu plus loin. Vous preniez des cours, vous vous inscriviez à un cours de théâtre.
Ouais, j'étais au cours de théâtre de mon lycée.
Vous adoriez ça. Qu'est-ce qu'on, quand on est en sixième, quand on dit j'aime être comédienne, on aime quoi? On aime jouer comme on joue quand on est enfant. On aime raconter des histoires. On aime être applaudi, regardé.
Tout ça à la fois. On aime. Enfin, moi, je pense que j'aimais bien être sur scène et qu'on me voit sans me voir. Enfin, je pense que c'est le fantasme de tout comédien, c'est d'être à la fois totalement vu et totalement invisible, totalement caché. Ça m'allait bien.
Une exhibition pudique.
Voilà.
C'est ça, pas planqué.
À figure.
Pas planqué. Et donc comment, surtout pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de cette passion?
Alors, c'est vrai, j'en ai fait beaucoup, j'adorais ça. Et puis un jour, j'ai eu une sorte de crise de panique, ce qui m'arrivera très souvent par la suite, où je me suis dit, là, je vais oublier mon texte. C'était Electre, je crois, je jouais. Non, c'était le site.
T'as oublié.
Même oublié le titre.
Et donc, je me suis dit...
Super comédienne.
C'est voilà.
Ah, dans le rôle de celle qui oublie tout, j'adore.
Non, je suis hyper bonne en amnésie, je suis hyper bonne, ça je vous promets. Mais je pense que vous allez me dire des trucs là, sur mon enfance et tout, vous allez totalement me révéler. J'aurais complètement oublié. Ah non, mais c'est fou.
Non,
la rapidité avec laquelle j'oublie.
François Mitterrand, ça vous dit quelque chose?
Alors, laissez-moi réfléchir. Je me suis dit, je vais pas pouvoir monter sur scène. J'ai été saisie d'une angoisse, mais monstrueuse. Je suis quand même montée sur scène Et puis, comme je l'avais prédit, j'ai eu un énorme trou.
Bah non, mais ça, c'est évident. Ouais, vous bah montez oui, sur scène en disant « je vais pas y arriver voilà. ».
Non, mais quand je vous dis « je vais pas y arriver », je pensais que c'était préférable de partir au Brésil et de changer d'identité plutôt que de monter sur scène. J'avais une angoisse.
Et tout dans la mesure, quoi.
Ouais, voilà. Le lendemain de cette représentation, je suis plus jamais jouer au théâtre.
Et si aujourd'hui, pour l'anecdote, ou pour une participation ou un guest dans un film, on vous proposait un rôle?
Un film, c'est différent parce que il y a pas le trac de la scène, quoi.
C'est ça. Restons à l'école. Pourquoi la maman de Mazarine Pinjot, à l'âge de 6 ans, je parle de Mazarine, est convoquée par la directrice de l'école?
Parce qu'elle dit que son père est président.
Exactement.
La grosse mytho.
Non, oui. mais j'adore. Ouais, j'adore. 6 ans. Mais évidemment, 6 ans, il y a zéro filtre, quoi. On dit la vérité à 6 ans. On n'a pas encore appris à se méfier du regard des autres et à respecter les consignes données.
Mais on apprend très très vite.
Ouais. À se taire.
Ouais.
Alors, comment vous avez en tête, malgré l'âge que vous aviez, vous avez en tête cette convocation, ce qui s'est passé, comment tout le monde s'en est sorti?
C'est là où je vais être hyper décevante, c'est que moi je m'en souviens plus. Okay. Mais on me l'a raconté, mais je m'en souviens plus. Je me souviens plus de l'avoir dit. Enfin, je pense que je me suis tellement auto-censurée que je me souviens plus de l'avoir dit, en fait.
Et le problème, c'est que c'était Giscard au pouvoir cette année-là.
C'est bon, ça.
Qu'écrivait Mazarine Pinjot sur les fiches en début d'année à l'école pour justement la profession de papa, puisqu'il fallait pas dire président de la République.
Sans profession.
Intermittent du spectacle.
Sans profession.
Pardon.
Intermittent du spectacle.
Non.
Politique.
Non.
Chef d'entreprise?
Non.
Patron?
Non.
Médecin?
Non.
Dentiste?
Non.
Comme Jésus, Dieu?
Elle mettait une profession ou pas
oui.
du tout? Ah ouais.
Oui.
Jongleur?
Enfin, non, pas toujours.
Pilote
d'avion. Pilote d'avion.
Elle pouvait mettre néant.
Ouais.
Mais,
pilote d'avion?
Non, mais là, en l'occurrence, c'est un.
Pas conservateur, archiviste,
ministre.
Douanier.
Historien?
Non, non, et c'est pas loin de la vérité. Exactement.
Ah oui.
Exactement.
Bah, écrivain.
Ou avocat, d'ailleurs, vous hésitiez.
En fait, je mettais rien. Et quand je mettais quelque chose, c'était toujours quelque chose de vrai.
C'est un demi-mensonge.
J'ai tellement l'habitude de mentir qu'il fallait toujours que je dise la vérité à l'intérieur de...
On retrouve cette allusion dans votre roman, avec justement que ne pas dire qui est son père, parce que immédiatement le regard des autres change. C'est un peu ça, la fille, l'héroïne qui a son père chanteur.
Dans le roman,
chanteur populaire.
C'est, voilà. Mais c'est la fille officielle, enfin je veux dire, elle porte le nom et tout, donc c'est pas la même problématique. Mais en effet, puis elle est dans une famille très clanique, où finalement le nom de famille, la puissance symbolique de la famille est plus important que les individus. Et elle a une mère, par exemple, qui lui dit... il faut que tu saches que dès que tu rencontreras quelqu'un, il sera forcément intéressé par ton patronyme et pas par toi, quoi. Donc elle est très... elle est très attaquée, en tout cas elle-même, comme individu.
Y compris sur son rang social. Elle a forcément de l'argent, elle est blindée.
Puis le père est chanteur, donc tous les mecs qu'elle rencontre forcément grattent un peu de la guitare et se disent peut-être qu'on va pouvoir signer
une chanson.
Voilà.
Que faisait réciter François Mitterrand à sa fille Mazarine le dimanche?
Le botin.
Les fables.
Les fables de La Fontaine.
Non.
La
Constitution, ouais, j'avais
non.
dit ça. Les fables de
Manon
France.
C'est clairement de la maltraitance.
Super dimanche soir.
Une fable de La Fontaine.
Un poème de son choix.
Pas de poème, non. Non.
Déclaration des droits de l'homme.
Non.
Je faisais réciter un
c'est
texte.
C'est pas bête. Mais non. Un texte. C'était pas un texte.
La Bible.
Il faisait réciter. Non, c'est pas un texte.
Des proverbes.
C'est le son, tout simplement. C'est devoir. Il faisait réviser.
Non.
C'était pas un texte. C'est ça.
Non.
Donc un peu n'importe quoi.
Non, c'est pas n'importe quoi. Déjà, il faut trouver le domaine.
La liste des courses.
Alors, c'est une liste, mais pas des courses.
De ses envies.
Des ministres.
De ce qu'elle voulait faire.
C'est pas des ministres.
Les présidents.
Les présidents
de la République.
Exactement. Exactement. Les rois de France. Et peut-être on peut rajouter les capitales. Si ça veut pas s'arrêter. Donc, je sais pas. Vous faites comme vous voulez.
Voilà, c'est joli comme musique.
Arrêtez là tout seul. La liste des rois de France et des capitales.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu
les Capétiens surtout et les capitales, les Capétiens et les capitales.
Ouais. Voilà. Capétiens, capitales.
Voilà.
D'accord. Ça vous est resté
pas
gravé
complètement.
En mémoire, non?
Il y a UKP, Robert Lepieux. J'ai le début de la liste, mais à un moment donné, j'arrête.
Et alors, pardon, est-ce que vous avez compris quel était son souci? Au-delà de transmettre, d'apprendre, pour lui, il était important de savoir quelle était l'histoire de notre pays.
Oui, comment... je pense. Et puis, l'histoire et la géographie, c'était quand même ses deux disciplines préférées.
Allez, dernière question, qu'est-ce qui a changé dans la vie de Mazarine Pinjot en 2018?
Elle est devenue grand-mère.
2018.
J'allais le dire, mais je me suis retenu.
Quelle est 18
ah ouais, mais il n'y a pas de fil.
Bienvenue au Club de l'élégance, les mecs.
Des voyous.
Sans déconner, elle pourrait être votre fille.
Une plaisante.
Elle a quitté Paris. Fille.
Elle a quitté ouais. Paris. Non.
Elle n'a pas quitté Paris, non.
Bah, c'est bon, pas un mariage.
J'ai devenu maman.
Ça pourrait. Ça pourrait, t'as en tout cas.
Par rapport à quoi? Une union en particulier? T'as changé d'éditeur?
En tout cas,
elle
s'en souvient. Elle s'en souvient plus du tout. Hein. Ça n'a pas été marquant.
C'est mis à la boxe.
C'est marquant. Non. Non. Mais non, mais arrête de chercher à tricher.
Moi, je la regarde.
Mais tu la regardes en disant c'est quoi?
Non, mais je triche pas.
Je
ne demande pas de répondre, mais je me dis.
Non.
C'est une activité?
C'est pas une activité. Non, mais
c'est une reconnaissance?
Oui.
Académie?
Non. De nom?
Exactement.
Ouais.
Double victoire.
C'est un point qui coûte cher. Victoire.
C'est-à-dire que vous avez demandé à ce que votre état civil change et que vous vous appeliez Mazarine Pinjot Mitterrand.
Ouais, j'ai fait la démarche que j'aurais dû faire depuis très longtemps et que j'ai pas faite pour plein de raisons. Et pour avoir le nom de mon père. Enfin, ce qu'il voulait lui,
mais
enfin,
bon. Refusé.
C'est ton père qui a refusé.
Faut pas. Ça a marché pour vous.
Mais d'abord, oui, est-ce que ça a marché?
Ah oui, ça a marché, ouais.
Et deux, pourquoi ne pas signer à ce moment-là votre livre Mazarine Pinjot Mitterrand? Et pourquoi ne pas immédiatement vous servir de cette identité et la revendiquer?
Bon, parce que j'ai pas vraiment besoin, enfin c'est pas comme si on savait pas, enfin je veux dire,
j'entends,
ça change pas grand chose.
Si vous faites la démarche, c'est que ça doit changer quelque chose pour vous.
C'est une démarche assez intime en fait. Alors vous voyez, intime, on en parle là.
C'est sur la première
intime,
radio de France.
C'est une démarche intime parce que c'est des choses qui me réinscrivent dans une filiation par rapport à mes enfants et tout, mais en fait j'ai pas besoin de l'utiliser socialement quoi.
Non mais au-delà de la période un peu trash de la révélation, de la poursuite, des paparazzi, enfin de toute cette violence-là.
Ce meurtre.
N'importe quoi. Quand vous dites dans le livre que les personnes justement regardant Mathilde, votre héroïne, voient la fille du chanteur, donc forcément est-ce que tu peux, un, m'avoir des places gratuites, ou deux, t'as de l'argent, ou trois, moi aussi je suis chanteur, je fais des chansons, est-ce que ton père pourrait les chanter ou me faire signer dans une maison de disque, cette suspicion-là, ce regard-là, vous avez dû l'essuyer aussi dans votre vie, parce que même ceux qui ne vous disent rien, vous disent bonjour, ah vous êtes Mazarine Pinjot, ils ont en tête évidemment tout le bagage.
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que on peut pas arriver quelque part sans quelqu'un a un préjugé sur vous. Disons que le truc, c'est que quand il y a eu la révélation, j'étais encore très jeune, mes amis les plus proches...
Vous aviez quel âge, pardon?
J'avais 19 ans.
D'accord.
Enfin, jeune, mais vieille en même temps. Et, enfin, je veux dire vieille en même temps.
Majeur.
En tout cas, l'enfance était passée et l'adolescence aussi. Et donc, mes amis les plus proches étaient au courant, donc ça n'a rien changé. C'est plus dans le regard des autres, dans la classe, enfin, dans les camarades de, voilà, la fac et tout. Mais en même temps, avant aussi, le fait de garder les choses secrètes était aussi un peu un empêchement à la facilité de la rencontre. Donc, ça n'a pas tant changé que ça là-dessus. Ensuite, les préjugés, c'est des choses qui tiennent pas très longtemps la route sur le temps en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on est une amitié. Enfin, quand vraiment il y a une amitié, c'est enfin on est deux, on se rend
vite compte.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un handicap social. C'est un handicap, par exemple, pour le boulot ou les choses comme ça, mais pas pour les relations profondes. Ouais.
Alors ces relations profondes, c'est essentiellement la sœur de votre héroïne, Clémentine, qui est elle le mât sur lequel elle s'accroche hein, quand il y a des tempêtes. Oui, c'est ça. Elle est vraiment dans un. C'est plus que la bonne copine, c'est plus que la frangine, quoi. C'est la conseillère, c'est celle qui l'abrite, c'est celle qui l'aide. Et ce qui est surprenant, ce qui est choquant, en tout cas, mais qui, on sait que malheureusement c'est proche de la réalité, c'est ce silence, cette manière dont votre héroïne se tait. Le titre est vraiment en filigrane de tout ce qui lui arrive dans sa vie. Elle se tait, elle est soumise.
C'est-à-dire qu'elle a commencé à se taire parce qu'on lui a plus ou moins aussi conseillé de le faire.
On l'a éduquée comme ça aussi. Ne dis pas que t'es la fille
d'eux. Ne fais pas scandale.
Ne tâche pas le nom de la famille.
Exactement. Et donc, quand on est victime, il y a toujours une forme de honte qui s'accole à sa propre, à l'agression qu'on a subie, elle va effectivement garder pour elle et sa sœur qui partage ce secret, le fait qu'elle a été violée. Mais ensuite, à chaque échelle de la société, en fait, on va lui intimer de se taire. Il y a sa famille, mais il y a aussi les policiers qui vont lui dire bon, plutôt une main courante qu'une plainte, parce que sinon vous allez être amené à être confronté.
Il n'y a pas de preuve.
Voilà, il n'y a pas de preuve.
Et puis surtout, elle fait face à un homme qui a une telle réputation positive qu'on peut même pas imaginer une seule seconde que cet homme, prix Nobel de la paix, très
qui
populaire,
qui vient de perdre,
sa fille à peu près du même âge.
Tout le monde est dans la compassion pour lui,
donc ça ajoute.
Voilà, on peut pas imaginer que cet homme puisse être un monstre, et donc on lui intime encore quelque part l'ordre de ne pas ébruiter l'affaire parce que sa parole ne pourra jamais être audible avec le nom qu'elle porte. On va forcément sous-tendre qu'elle essaye d'exister à sa manière, et en plus elle va déclencher un tsunami dont elle pourra pas maîtriser l'issue.
Le paradoxe, c'est que cette injonction au silence, elle vient d'une famille progressiste. Très progressiste. Et ça, c'est très intéressant. Ce sont des gens qui sont supposés être évolués, militer pour les droits de l'homme, l'émancipation féminine, etc.
Publiquement, en tout cas.
Et d'un seul coup, ils ont une attitude totalement, réactionnaire ou, enfin, très, très négative, alors qu'ils devraient pousser leur fille à se révolter.
Il y a ce sentiment, si on sort justement du contexte de votre livre, c'est-à-dire la notoriété de la famille, la notoriété de l'agresseur, il y a ce que l'on a beaucoup entendu et ce qu'il faut rappeler dans les situations de viol, le fait que la victime ait honte, et que justement, elle a plutôt tendance à se taire.
C'est-à-dire qu'elle se sent salie. Mais de ce fait, elle a l'impression qu'elle va salir les autres aussi, qui sont les plus proches. Donc d'abord au premier chef la famille, et puis ensuite ça s'étend, etc.
Est-ce que vous voulez qu'il y ait une morale ?
Non, je pense pas qu'on écrive pour soi une mission morale ou quoi que ce soit. Je pense qu'on écrit aussi pour essayer de décortiquer la façon dont les choses se passent, à la fois intimement, mais aussi socialement. C'est important de voir comment c'est une construction sociale qui impose ce silence aussi. Et donc, je pense que l'écriture, elle est là justement pour déployer la complexité des choses, les ambivalences aussi des uns et des autres. Parce que les parents, quand ils lui disent de se taire, c'est soi-disant pour la protéger aussi. Et d'une certaine manière, ils n'ont pas complètement tort, parce que lorsque ça sera su, elle sera vraiment très, très exposée.
Ça sera encore un autre tsunami. Elle en vit plusieurs, quand même, des tempêtes dans sa vie.
Elle est dans un endroit, vraiment dans un angle mort, quoi. Elle n'a pas voix au chapitre, elle n'est pas audible.
Non, mais c'est à se demander si elle avait réagi différemment dès la première tempête, est-ce que les autres auraient existé ou pas ?
Oui, je pense que oui.
Celle de l'homme violent, celle...
Alors, si morale devait y avoir, puisqu'on parlait de morale, ça serait effectivement de parler tout de suite. Mais sauf que c'est difficile de parler, il faut y arriver. Et donc, moi je ne la juge pas, j'essaye juste d'observer comment une forme de cohérence interne se met en place, quoi, interne et encore une fois collective.
Frédéric Sigrist ?
Mais on parlait de statistiques sur l'enquête ou tout ça. Les plateformes de téléphoniques qui reçoivent les appels ou de femmes victimes de viol ou de violences conjugales, quand 30, on regarde les
3919, autant rappeler le numéro de téléphone aussi pour les violences conjugales.
Quand on regarde les gens qui portent plainte, il y a une surreprésentation des milieux populaires et assez peu des classes aisées. Mais ça ne veut pas dire que ces violences n'arrivent pas. Simplement, la pression sociale est telle, parce que ça va rejaillir sur le nom de la famille et tout ça. Et ça, c'est vérifié. C'est-à-dire qu'on le sait qu'il y a une omerta qui est beaucoup plus importante dans les classes aisées que dans les milieux populaires sur les violences conjugales ou même les viols.
En tout cas, vous l'avez compris, à lire ce livre, ça donne à discuter, à échanger et puis à réfléchir aussi sur soi, que l'on soit une femme ou un homme, d'ailleurs. Peut-être que l'adage qui ne dit mot qu'on sent va vite être oublié, parce que c'est vrai qu'elle ne dit rien. C'est vrai que le violeur peut avoir le sentiment de dire qu'elle était consentante, alors qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle était tétanisée et qu'elle s'est tue là aussi.
D'autant plus qu'elle est venue prendre donc les photos de cet homme, il l'a violée et elle a pris les photos après, en état de choc. Mais il n'empêche qu'elle a fait quand même son travail, quoi.
Non, mais ça pose toutes les questions que l'on entend, notamment sur le délai, le temps que peut mettre. Le temps que peut mettre déjà une femme à le dire, c'est-à-dire on peut dire le temps de la réflexion.
Pourquoi la sidération,
quoi. Pourquoi elle a attendu un an, pourquoi elle a attendu deux ans, là elle a attendu six ans. Tout à l'heure, nous recevrons Muriel Salmonin, qui est psychiatre spécialisée en traumatologie et victimologie. Ça sera dans une petite demi-heure dans cette émission. Mais d'abord, voici celui qui a d'autres révélations à faire. Il s'agit de François. François, salut.
Salut les amis, salut Nagui, coucou Mazarine. Comme tous ici, j'ai adoré dévorer ton livre comme on le ferait d'un palpitant thriller psychologique. J'ai été révolté par la rouerie, l'hypocrisie de ce violeur prix Nobel, moderne réincarnation de Tartuffe. J'ai fulminé contre cette loi du silence qui baille une victime déboussolée en ne lui laissant que la honte. Oh, ce que je viens de dire, ça en jette. C'est pas chez Salamé qu'on entendrait une telle analyse. Quant à la personnalité de Fouad, le compagnon de la narratrice, Fouad, possessif, jaloux, tyrannique, qui ne conçoit les rapports humains qu'en termes de domination, il me fait penser trait pour trait à un Égyptien que je connais bien.
Non.
Natif d'Alexandrie, lui aussi.
Mais ça, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, je vais m'en prendre dans la tête.
Mais oui,
tous les Égyptiens ne sont pas Fouad, monsieur.
Que d'analogie. Mais venons à l'essentiel. Se taire, le titre de ce roman, eh bien c'est exactement le contraire de ce qui m'a été demandé par la direction de France Inter, contre un cachet fort modeste d'ailleurs, qui m'a chargé de révéler les complots et autres intentions cachées des invités. Voilà pourquoi, ce matin, je ne vais pas me taire sur le véritable message, ça fait de son effet, ce véritable message de ce roman, à savoir la promotion du roller derby. Vous me direz que c'est que du patin à roulettes, avec option coup dans la gueule. Mais page 55, alors que Mathilde évoque le match des ogresses de Barbès contre les Bouchères, je lis ceci, deux points et j'ouvre tes guillemets, Mazarine. À la fin des matchs, les joueuses saignent, elles comptent les bleus, on dirait que ça leur fait du bien. Oh ! Et le nom des joueuses de ce sport de contact, à côté duquel le rugby féminin est une compétition de caresses, elle s'appelle Dans ta face, Léa de Hurlevent, Frida Kahlo, Eat my bitch up, Belles et putes, Génocide. Alors forcément, j'avoue que depuis que j'ai lu ce terme, je suis terriblement attiré par le roller derby. Avec mes amis, je me suis remis au patin et dès ce soir, je vous invite tous à assister à mon premier match qui se déroulera sur le dance floor du Banana. Les gourdes à poppers du Marais contre les tondeuses à gazon de Ménilmontant. Ce sera fort, ce sera oui.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Oui, là, j'avoue que... Est-ce que c'était important de préciser qu'il était égyptien, franchement?
Je suis désolée, je m'excuse.
Ce monstre...
Sympa au début et après...
Non, séduisant, séducteur, voilà. Parce que dès qu'il arrive en société, il sait...
C'est fou, hein.
Mais je suis timide, tu vois.
Mais c'est vrai que c'est...
Timidité, c'est quoi?
Je connais pas Mazarine, on ne se connaît pas, on a
Vous avez un talent,
Bon, vous
cernez les gens.
Vous avez au-delà de ça, évidemment, tous les journalistes ont cherché à lire votre livre en cherchant des pistes.
Un roman à clé,
évidemment, en disant qu'est-ce qu'elle veut nous dire, soit qu'est-ce qu'elle veut révéler, soit que c'est elle et que l'on ne sache pas, ou bien finalement, est-ce qu'elle s'est appuyée sur une histoire ou des histoires? Parce que c'est vrai que il y a plusieurs facettes dans le livre, qu'on peut y voir évidemment le viol qui est le point de départ, qu'on peut y voir les violences conjugales qui sont là aussi, on peut voir le problème de cette fille qui, comme c'est tout le poids de ce titre, se taire dans son silence. Dès le début, si elle avait dit un mot peut-être à ce fameux prix Nobel, ce prince, comme il est surnommé, peut-être qu'il n'y aurait rien eu de toute cette histoire. Il faut savoir dire non, violent. Non, mais parce que c'est aussi son problème.
Oui, mais savoir dire non, c'est difficile. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de
bizarrement très féminin. Mais ça, vous rendez compte qu'un garçon... Ouais, vous en rendez compte qu'un garçon ne peut pas comprendre ça.
On grandit avec, depuis 2000 ans, de difficultés à dire non, quoi. Et c'est... Et je trouve que ça se voit dans plein de petites choses du quotidien, mais pas forcément dans des situations aussi graves que des agressions sexuelles, mais même sur arriver à demander à être payé pour un boulot, augmenter son salaire. Non, mais c'est
Pas que les femmes sont payées.
Non, alors je vous rassure.
Des dommages.
Non, mais c'est vrai que c'est un truc systémique aussi.
Ouais.
C'est l'incapacité parfois de la femme à dire non ou à revendiquer quelque chose. Et pourtant, l'héroïne appartient à un milieu social plutôt privilégié parce que depuis le mouvement MeToo, on se dit il faut libérer la parole, décomplexer la parole. Mais en fait, parler, c'est pas si simple. Pour beaucoup de gens, ça peut sembler même étonnant dans certaines affaires que les femmes ne racontent pas ou n'aient pas raconté, mais parce que il faut avoir des outils, il faut avoir aussi un contexte psychologique et familial pour pouvoir le faire.
C'est qu'elle raconte à des mecs aussi, c'est-à-dire que quand peut-être plus maintenant, arriver dans un commissariat qui est une espèce de concentration de testostérone pour dire voilà ce qui s'est passé.
Mais un homme qui a été formé peut être très bien à l'écoute aussi.
Aussi un problème de formation. J'entends, mais c'est quand même déjà, ça doit pas être simple de venir parler de choses intimes en plus d'essuyer le regard ou le jugement d'un mec. Et on l'a entendu, ce côté, vous étiez habillé comment? Est-ce que c'est pas vous qui avez allumé? C'est pas vous qui cherchez? Enfin bon, il y a tout ce poids-là. Mais c'est vrai qu'elle, elle est éduquée pour se taire.
Ouais.
C'est ça quand même le point de départ. C'est ça, c'est l'importance de sa famille. Quoi.
Alors absolument de sa famille, mais je pense que malheureusement au-delà de cette famille, j'ai l'impression que les femmes, quelle que soit l'éducation qu'on reçoit, même la plus progressiste, la plus féministe, intériorisent quelque chose comme ça qui est de l'ordre de, c'est difficile de dire non quoi.
Moi j'en ai rencontré beaucoup pourtant. Hein, tout le monde, je peux vous dire.
Albert.
Oui, page 44, vous dites peut-être.
Pas plus loin. Tu m'as dit que t'es pas allé plus loin d'ailleurs.
Peut-être y a-t-il en moi quelque chose qui demande à être humilié, écrasé, annihilé. Peut-être mon visage et ma petite poitrine portent-ils en eux des décennies de servitude féminine et d'acceptation du silence.
Ouais, finalement on s'attache à Mathilde, on a envie de la protéger, on a envie d'être son pote aussi. Mais le prologue, moi je me suis pris une claque sur le prologue parce que à part peut-être la dernière phrase, les deux dernières lignes du prologue, quand on le lit, on ne sait pas de quel côté vous vous placez. On ne sait pas si vous êtes juge, victime, ce que vous dénoncez. Est-ce que vous dénoncez les tribunaux sur Twitter et sur Internet avec la façon dont la vindicte populaire peut se lancer sur quelqu'un pour détruire son image, sa notoriété, simplement sur une allégation, ou si vous placez du côté de la femme victime qui n'ose pas parler, qui ne dit rien.
Le prologue, justement, il est écrit, c'est un narrateur, quoi. Enfin, alors qu'après, c'est à la première personne, c'est Mathilde qui parle. Le prologue, c'est une sorte de tableau général de l'époque.
De comme radioscopie,
si... Ouais, de radioscopie, mais comme si le livre se situe à une époque un peu hors du... à la fois totalement contemporaine et en même temps un peu dystopique, quoi. Enfin, il y a une sorte de petit effet de déréalisation, comme ça. Mais dans le prologue... Mais il n'y a pas de dénonciation de l'un plus que de l'autre. Je pense que
c'est troublant. Je vous assure, à lire c'est troublant parce que
tant mieux.
Non, mais c'est réussi parce que on sait que la plume est féminine. On sait évidemment que si vous aviez entre guillemets un camp à choisir, il serait celui de la victime à protéger que de l'agresseur. Mais c'est troublant que d'un coup vous disiez et si après tout si s'est rien passé. Et si on venait ruiner l'image de quelqu'un de populaire ou de connu en l'accusant de quelque chose, et finalement,
mais oui, mais parce qu'il y a eu aussi des dérives terribles de ces mouvements. Enfin, parce que y a la délation est devenue quasiment une arme politique de combat qui à très peu de frais donne bonne conscience. Enfin, moi, il y a une forme d'hypocrisie autour de tout ça qui m'exaspère aussi, quoi.
On peut détruire une image en quelques clics sur Internet. Et même si après il n'y a rien ou il n'y a pas de plainte ou les plaintes sont retirées ou même la diffamation est retirée, le tatouage est là. On est marqué.
De toute façon, c'est intéressant comme parti pris vu la réaction de Nagui justement qui est un petit peu interdit devant la fin du roman. Tu n'as pas tout compris,
mais si tu parles pour moi, j'aimerais que tu te sois encore plus clair. Parce que la fin du roman, elle est. On va pas le dire. La fin.
Chacun choisit.
Exactement. Ouais. Exactement. Moi, on va pas dire la fin du roman. Elle est très forte. Non, mais elle est très très forte. Se taire, c'est signé Mazarine Pinjot. Lui, il va pas se taire. C'est Alexis Le Rossignol.
Qu'est-ce qu'il est fort en transition, ce Nagui. Bon, vous le savez, moi j'aime bien choisir des sujets a priori sans intérêt, en faire une chronique et prouver qu'effectivement, ça valait pas le coup d'en parler. C'est chronique du vendredi.
C'est ton pitch.
C'est mon style, voilà. Je sais que les auditeurs n'attendent rien de moi et j'ai pas envie de les décevoir, voilà. Alors, le week-end dernier, je suis allé à une petite sauterie en Normandie. Une fête / tournoi de volleyball / barbecue / ingurgitation de grosses quantités d'alcool. Chez les amis d'un pote qui ont une très belle maison juste en face de la mer. Mais vraiment juste en face. Pour vous donner une idée, ici c'est la maison et le public c'est la plage. Bon, vu d'ici ça fait pas rêver comme plage, mais c'est l'image, ce que je veux dire. Alors, j'ai tout de suite sympathisé avec les propriétaires de la maison. Je me suis même demandé pourquoi j'étais pas pote avec eux depuis plus longtemps, tu vois. Peut-être parce que je les connaissais pas.
Ah, c'est ça.
Mais c'est fou comme les amis de tes amis deviennent vite tes amis quand ils ont une belle maison au bord de l'eau. Alors que quand tu files un coup de main à des amis d'amis qui déménagent, ben, ça reste des amis d'amis, tu vois. T'es pas là et vous déménagez souvent? Non, parce que nous, on adore porter les cartons des autres en échange de 2 paires de pizza. Ce serait sympa qu'on reste en contact, tu vois. Alors, pour contextualiser un peu la fête, il y avait environ 30 adultes et 24 enfants. C'est marrant, on a toujours un nombre approximatif d'adultes et le nombre précis d'enfants, des fois qu'on en perdrait, tu vois. Alors, ça fait beaucoup de personnes à saluer, surtout qu'évidemment, on est arrivé les derniers. Ça, c'est un grand classique. Tu veux faire Paris-Caen en train, puis tu finis par y aller en Flixbus parce que le train, c'est trop cher, voilà. J'ai fait le calcul, il suffirait que je sois payé comme les autres pour que je puisse voyager en train, tu vois. Comme quoi, ça tient un peu de choses, hein. Tu prends le bus aussi, ça. Bref, on est arrivé les derniers et donc on a dû dire bonjour à tout le monde. Et c'est chiant, surtout quand tu connais personne, parce que t'as l'impression que les gens se demandent si tu t'es pas trompé de fête. Tu vois. Moi-même, j'en ai douté. Je me suis dit à un moment donné, ce week-end en Normandie, c'était pas en Bretagne plutôt? Alors, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que quand tu salues des gens que tu connais pas, tu dis bonjour et tu donnes ton prénom. Et les gens font pareil. Ça fait « bonjour Michel, bonjour Fabienne », alors qu'on sait très bien que c'est voué à l'échec, personne ne retient les prénoms. Donc l'avantage, c'est que tu peux faire des blagues, tu peux dire « bonjour Michel », alors que tu t'appelles Didier.
Ouais, c'est une bonne blague.
C'est pas extrêmement drôle non plus, hein, tu remplis pas en Olympia
avec ça. Si, là, si.
Moi ça m'a amusé la première heure. En même temps, en tant qu'humoriste, faut pas trop la ramener, parce que dans un groupe de gens qui se voient souvent, voilà, il y a toujours un ou deux gars qui font rire. Il y a les comiques de service et faut pas prendre leur place. Voilà. Moi, ça me concerne pas, mais un humoriste reconnu comme Daniel Morin, hein, qui a eu des dizaines de femmes à moitié dans son lit tellement il est drôle, l'autre moitié étant en commissariat pour déposer plainte.
Tellement il est drôle.
Il doit faire attention. Avant de faire des blagues, la consigne, c'est de rire à celle des gens qui font marrer tout le monde. Sinon, ça peut créer des tensions. Voilà. Donc, s'il y en a un qui dit 5 fois de suite, pas plus haut que le bord du verre, quand on lui sert à boire, faut rire 5 fois. Voilà. Pareil. Si un type dit comme ma bite, à chaque fois que quelqu'un prononce le mot énorme, voilà, faut rire. Hein.
Tristesse du week-end.
Tu peux même rajouter un petit clin d'œil et un pouce en l'air pour dire, mec, bravo, celle-là, j'y avais pas pensé. Souvent, ceux qui font ces vannes-là aussi.
Ah, la soirée.
Ça sent le vécu, en plus.
Enfin, c'est un peu un cliché, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est comme Mazar, comme Benjo, t'as fait une enquête. J'aimerais bien être invité l'année prochaine.
Tout n'est pas vrai.
Souvent, ceux qui font ces vannes-là, tu les retrouves d'ailleurs autour du barbecue. Et celui qui tient la fourchette et la pince, c'est le mâle dominant. Ça, faut le savoir, voilà. Lui, à pyramide édition barbecue, il est imprenable. En un. Pique. Brochette. En deux, saucisse, Strasbourg, autre, Toulouse.
C'est mon jeu préféré.
Moi, j'adorais
aussi. J'adore ce jeu. Voilà.
Bon, sinon, il y a toujours trop de viande sur les barbecues.
Je peux sortir?
300 saucisses pour 40 personnes, c'est beaucoup trop. Voilà. En temps normal, quand tu fais un purée saucisse chez toi, tu prévois 2 saucisses par tête. Mais le ratio homme-saucisse en configuration barbecue, c'est 8. Et ça choque personne, tu vois. Au contraire, les gens s'encouragent. Allez, mon gars, vas-y, prends-en une autre. Mais j'en ai déjà mangé 6. Et alors, t'en mourras pas? Moi, non, mais la planète, peut-être. Et même sûrement, parce que hier, j'ai vu le dernier épisode d'une super chaîne YouTube que je vous recommande, qui s'appelle Osons causer, sur l'impact de la production de la viande sur le réchauffement climatique et la déforestation. Et ça fait très peur.
Ouais, ouais.
Donc, voyez-le, moi je gagne rien là-dessus, mais si cette chronique peut vous renvoyer vers un contenu de qualité, hein, pour compenser, vous n'aurez pas perdu votre temps.
Merci beaucoup, monsieur. Merci.
La bande originale. Et on se retrouve jeudi, vendredi et samedi au point virgule.
À 19h.
À 19h.
La musique est présente dans votre livre, Mazarine.
À l'ombre du show business. Combien de temps vont-ils étouffer notre âme?
Kerry James, il y a aussi du Eminem.
Comment on choisit la BO dans un livre? Comment on choisit de citer telle ou telle...
C'est une grosse question, ça, parce que c'est... Moi, je suis assez attentive à ça. D'abord parce que la BO, elle raconte une époque. Donc, ça, pour le coup, ça situe très rapidement. Et puis, pour la caractérisation d'un personnage, c'est important aussi. Et là, bah, c'est aussi en fonction de, des dates. Pour l'avant-dernier roman que j'ai écrit, qui se passait dans les années 80, je me suis beaucoup plus pris la tête que dans celui-ci. Parce que,
oui, c'était un reflet du...
oui, il fallait se souvenir exactement à quelle date c'était, le tube était sorti, etc. Et là, après, c'est aussi une ambiance musicale dans laquelle on a envie d'être dans son roman.
C'est ça. Enfin... Vous mettez aussi, pardon, des goûts personnels ? C'est-à-dire que vous écoutez ce que vous écrivez ?
Pas toujours.
Patti Smith. C'est bien, c'est qu'avec elle, on retrouve aussi l'actrice que vous rêviez d'être, et puis la poétesse, hein, puisqu'elle écrit des poèmes, et là, on rejoint la famille dans laquelle Mathilde évolue, et la photographie aussi, puisque Mathilde va aussi changer de métier suite à ce viol. Elle va reprendre des études d'urbanisme.
Ouais. Ça, c'est hyper intéressant dans le bouquin, mais on n'aura pas le temps de tout raconter avec ce livre, parce que cette notion de vivre ensemble, d'espace conçu, là encore, on parle c'est systémique par rapport à la société, comment est-ce qu'on instaure avec Fouad, le personnage d'origine égyptienne aussi, quel lien on instaure avec une population
aussi.
Qui est mytho, issue de l'immigration.
Mytho architecte.
On ne sait pas trop en fait s'il est complètement mytho ou si partiellement, enfin on suppose que partiellement.
Non mais sa boîte ne marche pas, il n'a pas de clients et puis même quand tous les deux discutent d'urbanisme ou veulent aménager.
Tout de suite est
veulent aménager. Ouais. J'aime pas ce Fouad, je ne l'aime pas. et quand ils veulent aménager l'appartement, elle veut construire, transformer. Y a aussi celui qui veut raser, partir de rien, et celui qui veut construire du neuf, ce qui est psychologiquement aussi.
Ouais, mais il est intéressant ce personnage.
Ah bah oui,
il est très intéressant.
Il est intéressant parce qu'il est énervant.
Non, mais au-delà de ça, au-delà de l'histoire, parce qu'on parle de l'histoire depuis le départ, il y a une lecture quand même politique, je trouve. Moi, je trouve que c'est un livre éminemment politique, en vrai. Se taire, c'est pas simplement une fiction qui raconte l'histoire d'un viol. C'est aussi l'histoire de l'immigration. C'est les liens qu'on tisse ensemble. C'est la responsabilité qu'a ce personnage avec le nom qu'elle porte, parce que on parle toujours des transclasses et des transfuges, de ceux qui viennent de nulle part. On parle jamais de ceux qui ont un patronyme qui les oblige ou qui les contraint dans la vie. Et elle est quasiment contrainte de tendre la main à ce garçon, de partager avec celui qui vient d'ailleurs une forme de cadeau de naissance qu'elle a eu. Enfin, psychologiquement, je trouve que c'est un personnage qui est fascinant.
Sur l'intégration aussi, faire venir, et puis alors lui, il est dans la revendication permanente, c'est-à-dire que quoi que dise sa fiancée, quoi que dise la famille, il y a toujours la vanne de « ah oui, c'est parce que je suis arabe, ah oui, c'est parce que je suis immigré, ah oui, c'est parce que vous achetez une bonne conscience », et ainsi de suite. Il est saoulant.
Là, c'est problématique à lui aussi.
Qu'il y a.
Non mais, j'ai pas dit que je voulais l'adopter, mais je dis simplement que. Non. Il est intéressant aussi parce qu'il.
Puis
c'est une prise
côté,
de guerre. Mathilde est une prise de guerre pour lui. Donc à un moment, il doit à un moment exister dans la société française d'une autre façon puisque les chemins dits traditionnels ne sont pas forcément pour lui. Donc voilà.
Parlons de la musique dans la vie de Mazarine Pinjot. La vraie vie et pas celle dans le roman. Il y a en 1997, vous écoutiez. Brother Bellet's in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly green blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Bellet Bridge blows a comfort, singer just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre.
97, c'est l'année de la Greg. Décrocher la Greg de philosophie.
Vous l'avez fêté en dansant sur cette musique ?
Ouais.
Ouais, entre autres.
Pourquoi cette musique correspond à la Greg ?
Bah, c'était surtout les soirées où on se retrouvait avec des copains pour danser, parce qu'on travaillait quand même beaucoup et on avait nos petits exutoires comme ça le week-end.
Défoulé.
Et donc on dansait sur ce qui passait aussi.
Parce que l'année de préparation d'un concours comme l'agrégation ou comme d'autres, mais particulièrement l'agrégation, c'est faire un trait sur sa vie sociale, parfois même sentimentale, quasiment hygiénique, quoi. Je veux dire, il y a un truc.
Ouais, on travaille beaucoup, mais en même temps, c'est aussi des années où on a. Enfin, pour moi en tout cas, j'avais des potes, mais vraiment très, 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 très proches. Ouais. Alors certains qui passaient en même temps le concours que moi et puis d'autres. Et donc c'était aussi. On vivait en bande, c'était une année super forte à plein d'égards.
Et c'est un concours aussi où le nom n'apparaît pas sur la copie. C'est important de préciser ça avec votre histoire, Mazarine.
Bah comme ouais, tous les concours, sûr. Non
ouais, oui, ouais, mais oui, les, oui. La phase écrite, enfin, on peut.
Même au bac, ouais. Non, mais même au bac, il y a pas.
Et ouais. L'oral, faut mettre une cagoule.
Et ben l'oral, c'est plus compliqué.
Voilà, c'est ce que j'ai fait.
L'oral, c'est plus compliqué, ouais, c'est vrai.
Voilé. Intégralement.
Non, non, alors ce genre de vanne, vous arrive. En 1998, vous écoutiez Coolio. Vous préférez la version de Coolio que celle de Stevie Wonder?
Ouais.
qui est entre guillemets l'original, la reprise ouais. De Coolio. Est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant?
Pas trop. Et si j'en écoute, c'est plutôt de la musique classique, parce que s'il y a des paroles, je peux pas m'empêcher de les écouter.
Et c'est la parution en 98 de premier roman, votre premier texte, votre premier livre, qui a été reçu avec plus ou moins de tendresse, on va dire, par la critique. Libération n'y est pas allé par quatre chemins, parlant d'une écriture pitoyablement insignifiante. Enfin, alors déjà un premier roman, sortir un premier texte, c'est
bizarre qu'il n'y ait pas de jeu de mots, parce que généralement Libé, il y a un jeu de
douloureux
mots.
C'était pas un titre, c'était dans le corps du texte, c'est peut-être pour ça. Ça a été, j'imagine, ça a été un moment hyper douloureux, parce que tout d'un coup on décide de s'engager dans une voie où on est attendu, mais à la sortie du bois tout de suite.
Ouais, c'était très vieux, c'était une période extrêmement violente. Où la violence de certaines critiques, hein, et il y en avait aussi des très bonnes, mais bon, celles-là on les oublie très vite, était assez excessive. Alors je dis pas que le livre était un chef-d'œuve, mais par rapport justement à l'objet,
il se vengeait de votre dément. Des rapports ouais. Entre votre père et la presse.
Il y avait un degré de violence qui était juste hallucinant. Quoi.
C'était une surprise ou pas? C'était une surprise à ce point ou pas?
Non, parce que d'une certaine manière, moi j'ai toujours grandi dans cette violence-là. Ouais. Donc c'était comme si c'était un biotope normal, quoi.
En 2003, vous écoutiez... I saw you standing in the corner on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. White Stripes. Come to me again in the cold, cold night. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait que...
Bon,
2003, c'est aussi l'année où vous rejoignez Michel Field dans sa chambre.
Ouais, c'est le début de l'histoire. C'est le début
tendancieux, au vu des sujets dont on parle. Ouais,
c'est le début de l'histoire avec Paris Première, Field dans ta chambre après sa balance à Paris. Pourquoi vous décidez à ce moment-là, 2003, vous enseignez la philo à l'université, vous écrivez, en tout cas vous enseignez
au lycée à ce moment-là.
Au lycée.
Vous décidez d'ailleurs
d'aller à la télé.
Vous décidez ou on vient vous chercher?
On vient me chercher. Non, j'aurais jamais décidé toute seule, ouais. Comme une grande. Non, on me le propose. C'est Michel Field qui me l'a proposé. J'hésite quand même beaucoup parce que ça m'angoisse déjà. Enfin, c'est quand même quand on n'est jamais. On n'a jamais fait de télé, cette espèce de rapport à la publicité, et c'était compliqué. Et finalement, je me dis justement que, mais vraiment, là pour le coup, c'était assez conscient que c'est bien d'apparaître avec sa propre voix et avec un contenu qu'on maîtrise à peu près, plutôt que d'apparaître quand on l'a pas décidé et quand on vole votre image. Et c'était vraiment pour récupérer quelque chose comme ça que j'ai accepté. Ce qui était compliqué, parce qu'au début, j'étais tellement timide, angoissée devant les caméras et tout, que c'est pas comme si vraiment je maîtrisais à fond l'exercice, mais ça s'apprend. Quoi.
C'était pour mettre une personnalité sur un nom, sur...
C'était pour récupérer un peu quelque chose qui m'appartenait. Même si en fait, on n'arrive jamais vraiment à contrôler ni une image, ni quoi que ce soit. Enfin, finalement, elle appartient aux autres avant tout. Mais...
Se taire, c'est le nouveau roman de Mazarine Pinjot, publié chez Julliard. Muriel Salmona, psychiatre spécialisé en traumatologie et victimologie. Vous êtes présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Vous avez signé un livre noir des violences sexuelles qui a été publié en 2013 la première fois, qui a été récemment republié sans changer quoi que ce soit. Autrement dit, en 5-6 ans, rien n'a changé.
Bah malheureusement, rien n'a changé, malgré toutes les batailles, malgré des grands mouvements, hein, de dénonciation, malgré tout notre combat à toutes et tous, on est toujours dans une impunité complètement inconcevable, on est toujours dans le déni, dans la ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire vraiment la minimisation des viols et la mise en cause des victimes et le fait en fait d'excuser les violeurs. Et même on a même des situations qui s'aggravent puisque on a appris en septembre 2018 avec le ministère de la Justice qu'il y avait 40% de condamnations en viol pour moins depuis 10 ans. C'est-à-dire que la courbe
est descendante.
Descendante. Et puis là on vient
alors que les plaintes sont ascendantes.
Voilà, alors que les plaintes sont ascendantes et que il y a que moins de 10% des victimes qui portent plainte, des victimes de viol qui portent plainte.
Alors justement le livre s'appelle Se taire et c'est le premier réflexe d'une victime, c'est-à-dire
pas forcément du tout. D'ailleurs, Mathilde parle très rapidement. Mais le problème, c'est encore faut-il qu'elle soit entendue, encore faut-il qu'elle soit soutenue, encore faut-il qu'elle soit accompagnée, protégée, crue, qu'on lui rende justice. Le problème, c'est que presque toutes les victimes parlent à un moment ou à un autre, mais apprennent à se taire. Enfin, on leur impose de se taire.
Je suis désolé pour la question, mais je fais exprès de la poser. Je vous rassure. Quelle est la définition du viol ?
La définition du viol, c'est toute pénétration sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Toute pénétration sexuelle. C'est ça la définition.
Donc la notion de qui ne dit mot consent quand une
alors
une
ça
victime...
c'est le gros problème de la notion de contrainte.
Je vais juste aller au bout.
Quand
une victime ce qui est le cas de Mathilde est tétanisée et est sous l'emprise de la notoriété de l'âge sûrement de la carrure ou du physique ou de la force mais qu'il n'y a pas de violence réelle. Ouais. Elle est quand même violée, même si le violeur va dire mais non, elle a jamais dit non, elle s'est pas débattue. Ouais. Et
elle a même fait une photo.
Et on a même continué de faire de travailler derrière.
Même s'il a dit non, finalement, ça voulait dire oui, etc., etc. Alors ça, c'est le vrai problème de la définition du viol et qui passe pas par la notion de consentement libre et éclairé. C'est le problème énorme de la définition du viol pour les enfants, où d'une certaine manière, c'est la même définition. Ouais. Donc en fait, il faut prouver la contrainte sur des enfants, ce qui est complètement aberrant.
C'est dingue.
C'est-à-dire que voilà. Et puis on l'a vu qu'une petite fille de 4 ans a été considérée comme n'étant pas contrainte par son père pour une agression sexuelle. Donc on est dans le délire total. Et puis on l'a vu avec la Manada, on a vu qu'une jeune femme de 18 ans violée par une meute, puisqu'il s'appelait même la meute de 5 hommes, dans des conditions atroces, qui a été filmée, ils ont filmé le viol, et comme elle ne bougeait pas parce qu'elle était en état de choc, elle était totalement sidérée, c'est plus de 70% des victimes de viol sont sidérées et 100% des enfants sont sidérés, eh bien, à ce moment-là, ils ont dit que c'était pas un viol, mais que c'était une atteinte sexuelle. Ce qu'ils avaient fait, c'était pas très bien, mais que finalement, ils se sont retrouvés en liberté très rapidement. Il y a eu un appel.
C'est inconcevable. Inconcevable.
Voilà.
C'est inconcevable,
et c'est la méconnaissance aussi des conséquences et de l'impact psychotraumatique, où en fait, on fait toujours, et là on le voit vraiment très bien, merci pour votre roman Mazarine, on le voit très bien, c'est que c'est la stratégie de l'agresseur de surprendre la victime, d'être dans une violence extrême complètement inconcevable, et c'est pas une question de savoir dire non ou pas, comme on le disait tout à l'heure, mais pas du tout. C'est-à-dire que de toute façon, si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui sort un pistolet devant vous ou un couteau, je veux dire, vous n'allez pas lui expliquer non, mais non, là, vous n'allez pas me tuer quand même. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert ? Je veux dire que la détermination du violeur, sa volonté de détruire la victime, elle disparaît souvent sous une image catastrophique parce qu'il y a une sorte de confusion avec de la sexualité, alors que c'est absolument pas de la sexualité.
Il faut quoi ? Il faut éduquer fille et garçon, fille à parler et à ne pas se taire, et garçon à comprendre à quel moment une fille est d'accord ou pas.
En quelque sorte, là, moi, je m'insurge contre il faut expliquer aux femmes, et là aussi, je vous remercie, Mazarine, parce que ça, vous le dites bien, il faut dire aux femmes, il faut faire ceci, il faut parler le plus tôt possible, etc.
J'ai parlé d'éducation des garçons aussi.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, il se situe pas dans les victimes, il se situe dans la société. C'est-à-dire que les victimes, c'est pas à elles elles de tout faire, là, actuellement. Elles doivent tout faire. Elles doivent se défendre, survivre. Elles n'ont pas de soins.
Je voulais vraiment dire ceux qui sont des violeurs qui s'ignorent. C'est-à-dire ceux qui sont...
Excusez-moi.
Apprendre à un garçon qu'une fille qui ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord. Apprendre à un garçon à comprendre si oui ou non la fille accepte qu'il y ait un rapport. Parce que encore une fois, c'est la situation qu'il y a dans le livre.
C'est un prédateur, le mec. C'est-à-dire que
il a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est un prédateur. Il a une stratégie. Ouais. C'est une violence. On n'a pas à apprendre directement aux gens à ne pas tuer.
Je suis pas d'accord avec vous. Il y a des espèces de séducteurs, de dominateurs qui pensent avoir justement cette espèce d'aura qui va faire que la fille, elle va rien dire, mais elle va être trop contente finalement qu'il se passe quelque chose avec moi. Et donc, comme elle ne dit rien, comme elle ne se débat pas, en effet, c'est eux qui sont les acteurs, c'est eux qui agissent, c'est eux qui la déshabillent, c'est eux qui la pénètrent, c'est eux qui font l'amour, parce que pour eux, ils font l'amour. Et après, bah, elle n'est pas partie, elle
n'a
pas couru.
C'est comme ça qu'il m'a eu, Nagui.
Sincèrement, c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des violeurs qui s'ignorent, c'est-à-dire qui sont convaincus de ne pas avoir violé.
Oui,
exactement.
Non, mais ça, je suis d'accord que c'est tout un système, c'est tout ce qu'on appelle justement la culture du viol, qui fait que, en fait, on est complètement colonisé par un discours qui est un discours agresseur, qui va être dans un déni total, une inversion totale, qui va dire, voilà, la violence, c'est de la sexualité, en quelque sorte, contraindre, c'est en fait normal, une femme qui dit non, ça veut dire oui. Alors, bien entendu qu'il y a tout ça et qu'il faut lutter contre ces stéréotypes, lutter contre ces fausses représentations, mais il faut pas non plus avoir la crédulité de penser que, il s'agirait d'expliquer à des personnes qui veulent détruire qu'il ne faut pas détruire. Il faut les empêcher de le faire. Pour les empêcher de le faire, il faut qu'il n'y ait plus de déni, qu'il n'y ait plus en fait cette incroyable complaisance. Il faut que les gens ouvrent les yeux, il faut qu'on sache ce qui se passe. Et je veux dire, il faut voir les chiffres quand même, c'est 94 000 femmes qui subissent des viols et des tentatives de viol par an, 16 000 hommes, c'est 130 000 filles et 35 000 garçons qui subissent des viols et tentatives de viol par an. Donc je veux dire,
C'est quoi la peine de... Qu'est-ce qu'on encourt si on commet un viol en France aujourd'hui?
Alors, 15 ans de réclusion criminelle pour s'il n'y a pas de circonstances aggravantes, 20 ans en cas de circonstances aggravantes, jusqu'à 30 ans, voire la réclusion à perpétuité, s'il y a mort, par exemple, etc.
Il y a combien de peines comme ça qui sont prononcées en France?
Alors, il y a justement, c'est sur l'ensemble des viols, c'est 1% des violeurs qui sont condamnés. Sur les 10% de plaintes, il y en a 73% à 74% qui sont classés sans suite. Sur le reste, il y en a la moitié qui sont déqualifiés en agression sexuelle. Au total, sur les 10% de plaintes, il n'y en a que 10% qui vont aboutir à un jugement en cour d'assises. Là, il y a une impunité totale. Ça permet aux gens de violer. Je veux dire que l'impunité, c'est ce qui permet de continuer à être dans une violence.
La solution, j'imagine, pour vous, elle se situe à différents niveaux.
Bien sûr.
Est-ce qu'elle est dans la punition, la solution, ou est-ce qu'elle est dans l'éducation?
La justice est un élément essentiel. C'est-à-dire que les victimes, bien entendu, et la société a besoin de justice et a besoin de se protéger contre des personnes qui sont des criminels. Le viol est un crime. Après, bien entendu, il y a aussi la formation de toutes les personnes, l'information, le fait de comprendre, de savoir que subir des viols, ça entraîne des troubles psychotraumatiques, ça entraîne une sidération, ça entraîne une dissociation qui empêche les victimes de pouvoir se défendre, ça entraîne des troubles psychotraumatiques très graves, avec un impact sur la santé mentale et physique à long terme, et qu'elles ont besoin de soins. Et je veux dire, là, on est aussi, c'est un problème de santé publique majeur, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas de soins, et ça, c'est vraiment extrêmement cruel, en quelque sorte.
Mais ça commence pas dès l'éducation, c'est pas aux parents d'expliquer dès le début.
Oui, mais il faut que l'éducation communication, il faut qu'elle marche à tout niveau. Il faut que les professionnels...
Je parle des parents, aussi bien des filles qui peuvent être victimes que des garçons qui peuvent être violents.
Et puis, ça passe par la lutte contre les inégalités. Les violences sexuelles se produisent toujours dans des situations d'inégalité. Mmh. Et d'ailleurs, les victimes, plus elles sont vulnérables, plus elles sont handicapées, plus elles subissent de violences. Il faut le savoir, 4 fois plus de violences.
Je rappelle votre livre noir des violences sexuelles, publié chez Duno, et je rappelle le 3919, ce numéro, cette plateforme qui accueille tous les appels des victimes de violences conjugales, hommes ou femmes. Vous avez eu raison de rappeler d'ailleurs que ça se passait dans les deux sens, pour ne pas se taire, contrairement au très bon roman de Mazarine Pinjot. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Bonjour Tanguy Pastureau.
Bonjour Nagui.
Dans ce monde de violence, vous allez nous parler d'amour.
Oui, puisque mercredi j'ai fait un papier sur la mort et hier sur Cédric Villani, donc trop de noirceur. Je suis en train de perdre mon public, ces 14 personnes qui me sont si chères. Je vais donc vous parler d'amour de Céline Dion, de Laetitia Hallyday, de Manuel Valls, tous ces gens qui font des bisous et qui font exulter leur corps fatigué.
On en parle après les infos. Avec les lacs de vous, Daniel Morin, Frédéric Tibis, Tanguy Pastureau, Alexis Rossignol, tout ce monde pour vous, Mazarine Pinjot. Incroyable, le casting, le prix que ça coûte pour vous accueillir, c'est ça.
Sur la paille, le service public. Ouais.
Vaut le coup parce que le roman, il est super.
Heureusement que Alexis n'est pas payé.
Exactement. Se taire chez Julliard, Mazarine Pinjot, avec un roman qui est sur des sujets extrêmement graves. C'est l'histoire d'une vie, la vie de Mathilde qui est violée au début, puis après qui est frappée, puis après, quel travail va-t-elle faire sur elle-même? Elle change puisqu'elle devient maman. Un roman, il y a un début, il y a une fin. Comment vous l'avez construit et pourquoi commencer là et pourquoi finir là?
Dans le livre, moi, ce qui m'importait, c'était de montrer comment ce trauma premier qui était le viol allait se transformer et allait diffuser tout au long de la vie de Mathilde. Alors, on la voit pas jusqu'à... Enfin, en tout cas, on la voit évoluer au fur et à mesure des années et notamment dans sa rencontre amoureuse. Et c'était important pour moi de montrer comment le choix de l'homme avec qui elle allait faire un petit bout de chemin était complètement conduit par l'acte qu'elle avait subi à 20 ans. Et comment finalement elle se remettait dans une forme de soumission, ou de comme elle répétait quelque chose qu'il avait elle-même... qu'il avait effacé, quoi, qu'il avait annihilé.
Ouais, ce taire qui est votre titre, c'est son deuxième prénom quand même. Mathilde doit se taire.
En tout cas, elle se retrouve effectivement dans une relation amoureuse complètement toxique, qui répète en fait la situation dans laquelle elle s'est trouvée, à savoir quelqu'un qui est désarmé, quelqu'un qui est objectivé, quelqu'un qui n'arrive pas à récupérer une voix qui lui serait propre pour s'opposer, pour dire non à nouveau. Enfin, et donc elle subit une relation qui est perverse, quoi.
Il y a toujours beaucoup de violence, je trouve, dans vos bouquins, là dans ce terme. Je pense aussi en tant que scénariste, il y a un film que j'adore, c'est L'économie du couple, réalisé par Joachim Lafosse. Elle vient d'où cette... Est-ce que, je sais pas, c'est le lieu de la violence, le roman, c'est là où elle peut s'exprimer?
Ouais, complètement. C'est d'ailleurs aussi là-dessus, enfin, que travaille le livre Se taire, et la raison pour laquelle il s'est construit comme ça en deux temps, enfin, le moment du trauma et puis ensuite la vie qui continue. C'est comment la violence, elle prend des formes très différentes selon qu'elle est immédiate, instantanée, évidente, mais comment elle peut aussi être beaucoup plus insidieuse et finalement s'insinuer de manière silencieuse et presque invisible dans la vie de tous les jours. Et je trouve que c'était important de raconter cette violence-là qui est l'écho d'une violence première. Et oui, je pense, enfin, en tout cas pour moi, le livre, enfin le roman, lorsque j'écris, est toujours le lieu d'une formulation de la violence. C'est pas une décision consciente, mais effectivement, il y a quelque chose où ça concentre la violence qui est à la fois en moi, mais aussi qui est dans notre société, quoi.
Vous en avez parlé dans Psychologie Magazine, ou pas?
Oui, alors je me suis allongée très longtemps.
Il faut rester longtemps. Il y a de quoi raconter. Chez Julliard, le roman s'appelle Se taire. C'est signé Mazarine Pinjot. Voici Tanguy Pastureau.
Parlez-moi d'amour.
Oui, Nagui. L'amour, on a l'impression que c'est formidable, hein, que ça fait des papillons dans le ventre. Puis on réalise après avoir vomi qu'en fait, on avait une gastro. Parce que c'est un sentiment rare que peu de gens vivent en réalité. C'est pour ça qu'on rêve en pensant aux histoires d'amour mythiques. Marc-Antoine et Cléopâtre, Bonnie and Clyde, Patrick et Isabelle Balkany, c'est la VF, H&M, Booba et le Club Med Gym, Emmanuel et Brigitte Macron, Emmanuel Macron et Emmanuel Macron. Les gens, s'ils nous écoutent à cette heure-ci, c'est pour tromper leur manque d'amour. Les dames se pâment à l'écoute de la voix de Daniel Morin, usée par le tabac brun. Là-bas en Amérique, chez Philip Morris, un portrait géant de Daniel est affiché dans le hall, avec écrit « On doit tout à notre bébé ». Les dames plus âgées se découvrent une moiteur qui n'existe qu'au Laos au printemps ou dans le slip de Francky Vincent, quand elles entendent Albert Algou. Et dans les EHPAD, un long cri de jouissance résonne alors, les pensionnaires criant « C'est lui que j'aurais dû choisir en 44 » et pas ce Klaus qui m'a valu au sortir de la guerre la seconde pire coupe de cheveux après celle de Boris Johnson. C'est pour ça qu'on lit la presse People, parce qu'on sera jamais en couple avec un prince ou alors le biscuit, mais une relation avec un biscuit, ça s'effrite. Donc quand on lit que Meghan Markle se dispute avec Harry, ça rassure, on se dit elle aussi a une vie nulle. Moi quand j'ai lu dans Voici que Beyoncé avait des vergitures, je me suis dit on est pareil, alors je l'ai enfilé ce petit maillot de corps. Et je l'ai secoué mon boule devant la glace pour être Beyoncé. C'est précisément ce jour-là que j'ai décidé d'être plutôt Jane Birkin. Un vieux jean, un pull troué avec le cintre encore accroché dans le dos, c'est plus, dans le cou, c'est plus simple. Hier, par exemple, tiens, Céline Dion, la dame aux 180 cordes vocales. Elle s'en fait tirer chaque semaine, mais ça repousse. A parlé d'amour lors d'une interview. Vous savez qu'elle a perdu son mari, René, deux fois. Une fois dans sa villa à Miami, qui était tellement grande qu'on a mis un an et demi à le retrouver. En fait, il était dans le WC numéro 180 au 7e étage. Il se nourrissait de canard WC et de feuilles de Moltenel. Une feuille, un peu de canard WC, une feuille, c'est la lasagne du petit coin. Et une autre fois, en 2016, on l'a perdu réellement, puisqu'il est parti là-haut rejoindre Gene Seberg, c'est Jérôme et tous ceux qui auraient pu regarder l'info du vrai sur Canal avec Yves Calvi. Et Céline Dion a révélé qu'elle était toujours seule. On la voyait beaucoup avec Pépé Munoz, un danseur, mais ils ne sont pas ensemble. Hein, quitter René pour se mettre avec un Pépé, ça aurait été redondant. Donc on est rassuré, Céline est comme nous, elle galère, quoi. On se met dans sa peau. Mais par contre, mon Dieu, Laetitia Hallyday. Oh, Laetitia ! Hier, j'étais chez le dentiste. Dans la salle d'attente, on parlait que de ça. Il y a une dame qui avait quatre dents en train de pourrir. Quand elle a ouvert la bouche, les cadres au mur se sont décrochés. Un enfant a convulsé, sa Nintendo a fondu. Et ben, malgré la douleur, elle a émis un avis sur Laetitia. Mais parce que Laetitia a retrouvé l'amour avec un restaurateur. En général, c'est Cyril Lignac, mais bizarrement pas là. C'est un autre monsieur.
Et là, ça divise évidemment les fans de Johnny.
Mais oui, parce que la star ne s'appartient plus. Si Alexis Le Rossignol, qui n'est pas une star, plante sa compagne ou son compagnon, parce que 1, on ne connaît pas sa vie, et 2, les gays ne s'habillent pas tous super bien. Certains sont comme vous, Nagui. Donc s'il quitte sa moitié pour une personne différente, plus petite par exemple, qui ne ferait qu'un quart, pareil, eh ben on s'en foutra. Il peut vivre librement. C'est pourquoi j'incite tout le monde à ne pas aller le voir au point virgule à Paris, afin de ne pas entraver cette liberté qui lui est chère. L'échec professionnel apporte la liberté. Regardez Benoît Hamon, même s'il fait du bondage avec des pots de saucisson au salon des véganes, personne ne le prendra en photo. Laetitia, toute sa vie, alors qu'elle est encore jeune, sera jugée par les gens. Alors qu'après un grand amour, on peut en vivre un deuxième, puis un troisième, un quatrième, et ainsi de suite jusqu'à 130. Comme me le disait un ami qui travaille sur le documentaire Patrick Bruel, Les femmes de sa vie, film qui durera 14 heures. L'amour, ça vous surprend. Regardez Manuel Valls, il était épuisé, ruiné. Il sautait dans un cerceau sur les Ramblas à Barcelone pour qu'on lui file des pièces. Et là, paf, il rencontre Susanna Gallardo, une riche héritière. Elle a trouvé une croque verte dans une poubelle, a cherché le pied de qui allait dans le coup de bol, c'était celui de Valls. Eh ben, ils viennent de se marier. Il a choisi pour ouvrir le bal, attention, une chanson des Gypsy Kings. Hein, donc je pense que ça y est, elle l'a quitté. Alors Susanna, nous dit Paris Match, a pris le micro et a déclaré « Manuel, je t'aime, merci de me rendre immensément heureuse ». Mais vous imaginez, vous avez tout raté. Les élections en France, en Espagne, il vous reste les législatives en Corée du Nord, mais il faut être pote avec Kim Jong-un. Et un jour, une femme vous dit « Je t'aime ». Mais c'est ça l'amour, c'est pur. Parce que Valls n'a plus rien à offrir. Autant François Bayrou, il sait que si on le drague, c'est par intérêt, c'est parce qu'on veut un emplacement à pas cher pour ouvrir un kebab à peau. Mais Valls, il faut l'aimer pour ce qu'il est, et c'est dur. Les Gypsy Kings, cette coiffure, cette rigidité cadavérique qui fait que Ian Curtis de Joy Division à côté, c'était Mia Fry. Cette phrase ridicule qu'il dit pendant l'amour, tu le veux mon 49-3. On ne peut pas aimer Manuel Valls autrement que sans arrière-pensée. Voyez, l'amour, ça peut nous sauver, ça peut nous surprendre, alors qu'on regardait la plage à Saint-Barth en pensant
pensant au passé, ou à Berck pour les gens qui nous écoutent. Et parfois, ça ne vient pas. Céline Dion est seule. Pépé est gay, a-t-elle précisé. Si quelqu'un, un hétérosexuel, peut se dévouer et l'occuper suffisamment pour qu'elle ait de chanter, pitié qu'il se déclare.
Mais non. Merci.
La bande originale. France Inter.
Et on te retrouve, Tanguy, le 9 novembre à Château-Renard, c'est juste à côté d'Avignon.
Exact.
Allez, l'interro sur ce qui se passe en ce moment dans le monde culturel. On reparlera évidemment du roman de Mazarine Pinjot, Se taire, chez Julia. Mais vous aussi, Mazarine, vous pouvez essayer de répondre à cette question. On vient d'apprendre que Roman Polanski a reçu un SMS de félicitations après la remise du Grand Prix pour son film J'accuse à la Mostra de Venise. Le SMS n'est pas du tout banal. Qui?
Woody Allen?
Non. Oh, les pervers. Non.
Donald Trump.
Non.
Bah de la, la victime
exactement.
Oh là là.
Ah, mais il paraît que c'est ça. Woody Allen, la victime de...
Samantha Gamer, oui. Victime de... Son ancienne, entre guillemets, victime de Roman Polanski. C'est elle qui a envoyé le texto avec...
En disant quoi?
C'est... Félicitations, Roman.
Et une petite aubergine à la fin.
Non. C'est dingue ou quoi? Mais il
est fou, ce type. Ça m'a fait rire.
Elle a déjà sorti du bois en parlant publiquement, en disant qu'elle voulait plus entendre parler de l'affaire, qu'ils avaient réglé ça, qu'elle lui avait pardonné.
Exactement.
Enfin, il y avait quand même un précédent. C'est pas juste, voilà.
Le pardon, justement, il est évoqué aussi dans votre roman.
Mais le pardon, je pense qu'il est possible à partir du moment où l'autre connaît ce qu'il a fait. Ouais. Là, comme il y a un déni. Monumental, c'est impossible.
On dit pas ce qui se passe, c'est l'un des points de départ. Ouais. Pourquoi Timati, le rappeur star russe, a dû ces derniers jours retirer sa dernière vidéo sur YouTube?
Il y avait Poutine dedans.
Il insultait l'État, le Kremlin.
Non. Il embrassait sur la bouche un sosie de Poutine.
Il buvait quelque chose.
Des opposants politiques dans le clip?
C'est un rapport avec Poutine, en tout cas, oui.
Non. Il était déguisé
en Poutine. Il y avait Navalny avec lui.
Non. Il mangeait de la Poutine.
Non. Blague québécoise, très très rare.
Très mignon.
Blagues
internationales. Elle est mignonne. Non.
Moi, j'aime bien. Pas d'idée?
Ah non, là, on va pas trouver, je crois.
Il avait appelé un chien Poutine.
Non.
Le drapeau, en lien avec le drapeau russe, avec le Kremlin.
Et... Non. Il y avait un sosie de Poutine dedans.
C'est un rapport avec Poutine, c'est pas ça. Non, c'est un rapport avec le vrai Poutine.
Bah, il l'insultait.
Il le cite dans sa chanson.
Non, justement.
Il est trop favorable à Poutine.
Ah. Exactement, Tanguy a raison. Il est tellement favorable à Poutine qu'il a eu trop d'avis négatifs sur sa vidéo. Et ça s'est écroulé. Dernière question, puisque aussi dans votre livre, il y a le regard que l'on peut avoir en fonction de sa notoriété. Je suis devenu, selon moi, la personne la plus ridiculisée, la plus détestée au monde.
Trump.
Qui dit ça?
Yann Moix.
Non.
C'est un acteur, un chanteur.
C'est
Jean
Lassalle.
Aux États-Unis?
Oui.
C'est Justin Bieber.
Exactement. Ah. Exactement. Il dit lui-même, il dit lui-même qu'il est la personne. Il s'est confié après une longue publication et il dit qu'il est la personne la plus.
Quel ego?
Oui. Non mais c'est ça. Comment gérer son image publique? C'est une question que vous êtes obligé de vous poser.
Moi, pas vraiment, parce que c'est pas comme si j'avais une image qui était importante pour ma carrière. Enfin, je suis pas comédienne, je fais pas de politique, je représente rien que moi-même, quoi. Donc c'est quand même un peu moins de pression que si j'avais par ailleurs des missions importantes.
Non, mais un problème d'image peut nuire à la lecture de votre roman.
C'est vrai, mais moi, c'est pas très compliqué. Je n'apparais en public que lorsque je suis en promotion, lorsque j'accompagne un livre. Et pour le reste, j'ai fait, j'ai travaillé à Sa Balance à Paris, mais c'est à peu près tout. Dans une bande un peu comme vous, où on s'amusait bien. C'était très chouette, mais on parlait de culture. Enfin, voilà, moi, je n'apparais que en fonction, enfin, que lorsqu'il me semble que par rapport à mes compétences, c'est légitime d'apparaître. Donc,
Mazarine Pinjot, Se taire, le roman chez Julliard. J'imagine que dans votre famille, autour de vous, on a lu votre roman. Évidemment, quel retour en avez-vous eu? Est-ce que même dans votre propre famille, on cherchait à analyser, à reconnaître certaines situations?
Non, pas à reconnaître des situations, mais en revanche, c'est toujours bizarre la lecture des proches, parce que forcément, ils vous connaissent, donc ils voient toujours d'autres choses. Alors, pas forcément qui est qui dans un livre, mais plutôt, mais est-ce que ça t'est arrivé? Mais alors, à quel moment? Mais ça crée tout de suite de la suspicion, quoi. Et donc, c'est toujours ça, la lecture des très très proches, elle est toujours très biaisée.
Est-ce que Pascal Mitterrand a lu votre livre?
Je sais pas. Elle habite très très loin, on se voit pas du tout et on s'est pas parlé.
Préciser qui est Pascal Mitterrand, ouais. c'est votre nièce,
ouais. Mazarine, fille de Gilbert,
qui avait porté plainte. C'est exact, ouais.
Voilà, et dont on dit que c'est le modèle de Mathilde. En l'occurrence, il y a plein de choses qui de la situation.
Il y a allusion à ne serait-ce que du le journal qui a publié entre guillemets l'affaire et qui dépose le bilan. C'est ce qui justement.
Ouais, c'est qu'il y a des situations qui sont enfin qui sont assez inspirées de ce qu'elle a pu vivre, mais ensuite évidemment Mathilde n'est pas elle. C'est pas du tout
C'est un roman.
Voilà.
Publié chez Julliard. C'est Frédéric Segris maintenant sur Terre.
Alors cette semaine, Nagui, comme toutes les semaines, je lisais la presse pour trouver des gens plus malheureux que moi. Oui, est-ce que c'est la condition sine qua non quand t'es parent de deux enfants avec un prêt de 25 ans sur le dos et une maison en banlieue? Faut que tu lises à quel point le reste du monde a une vie de merde pour rendre la tienne acceptable. C'est vieux comme le monde, on fait tout ça à nos enfants quand ils veulent pas manger les choux-fleurs par exemple. Tu sais, on est là, mais tu veux pas manger des choux-fleurs? Mais tu sais qu'à l'autre bout du monde, il y a des petits-enfants, ils ont rien à manger. Bon bah ça, on le dit pas parce qu'on projette de créer une banque alimentaire avec un microcrédit dans les 6 mois. Hein. Non, ils ont faim aujourd'hui, ils auront faim dans 6 mois. Non, tu dis ça pour que ton gosse il termine ses choux-fleurs et qu'il la ramène pas. Tu étouffes la contestation avec les emmerdes des autres. Bon, bah les informations, c'est la même chose, mais pour les adultes. Et je tombe sur un article intitulé « Le cri de colère des pompiers ». Et là, ça m'interpelle, parce que s'il y a bien des gens que t'as pas envie d'entendre crier au feu, c'est les pompiers. Moi, je vais chez le médecin parce que j'ai une drôle de tache sous le bras et je vois le toubib faire
« Alors là ?»
Et ensuite, chercher sur Doctissimo à quoi ça peut correspondre, je sais pas vous, mais moi, je suis pas rassuré. Il y a des professions, t'as besoin, t'as envie qu'elles aillent bien. Le ou la pilote d'avion qui est fatiguée avant le décollage, qui vient de s'engueuler avec son amoureux ou son amoureuse, t'as envie de lui dire, tu sais quoi, on part demain, ou après-demain, ça presse pas. Oui, je sais, on a réservé pour 6 jours All Inclusive à la Barbade, mais moi, toujours moi, et toi dans tout ça. Hein, prends du temps pour toi, ou fais-toi remplacer. Pompiers, c'est une profession, on veut qu'ils aillent bien. Moi, j'aime bien les pompiers, pas autant que Leïla, qui les aime de manière pénalement punissable. C'est elle qui nous l'a dit.
Une fois par an.
C'est des héros.
On avait tous la caserne.
Mais c'est des héros, ces gens-là, vraiment. Moi, j'adore les pompiers. Ils éteignent des feux qu'ils n'ont pas allumés. Vous vous rendez compte? Ils éteignent des feux qu'ils n'ont pas allumés. Moi, dans la rue, je donne déjà pas d'argent sans-abri s'il n'y a personne pour le remarquer. Alors, risquer ma vie pour un abruti qui a laissé cramer sa gazinière, mais ça me dépasse! Moi, secouriste, je suis incapable de sauver la vie de quelqu'un que je connais pas. Moi, secouriste, ça serait comme ça. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Ranimez-le. Je sais, ok, je vais le ranimer, mais il a voté quoi aux dernières élections? Non, mais comme ça pour savoir. Et ce CD de merde de Maître Gims, là, vous savez si c'est à lui?
Je demande.
Il faut même pas ça pour l'argent, les pompiers. Tu prends le salaire d'un pompier et le salaire d'un chroniqueur ou d'un animateur. Je dis ça parce que c'est vous que j'ai dit en face de moi. C'est un exemple. Bon, bah, il y en a un qui est pas payé ce que ça vaut et l'autre qui est peut-être trop payé pour ce que c'est. Voilà. Je dis pas qui, hein, parce qu'après, c'est subjectif.
Non, mais je vois pas.
8 pompiers sur 10 sont des pompiers volontaires. 8 pompiers sur 10 sont des pompiers volontaires. Ça veut dire que c'est des gens, ils travaillent à côté. Sauver des vies et risquer la leur, c'est un hobby pour eux. Tu sais, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués. Bon, allez, je sauve quelqu'un. C'est dingue. Bon, bah, figurez-vous que ces gars-là, ils se font de plus en plus agresser. Selon les statistiques, il y a 7 agressions de pompiers par jour. Alors, c'est pas les mêmes, hein. Non, parce que sinon, il faut qu'ils se remettent en question. Non, on vit dans un monde où les gens créent des comités de soutien pour Patrick Balkany et où d'autres agressent des pompiers. Mais si ça, c'est pas la preuve que l'humanité a dépassé sa date limite de conservation, comment tu peux en vouloir à un pompier? Un flic, je justifie pas les violences contre les policiers, mais tu peux comprendre, il y a des vidéos de bavure. Mais un pompier, ça fait quoi comme bavure, un pompier? Ça défonce ta porte et ça inonde ton appartement avant de se rendre compte qu'il n'y avait pas le feu. Enfin, la bavure, ça n'existe pas chez un pompier. S'il vient chez toi, ça a peut-être à voir avec le fait que t'es en flamme, putain, et que c'est toi qui l'as appelé. Et ça n'a rien à voir avec les calendriers. On peut ne pas aimer les chatons sans avoir envie de caillasser un pompier. Ils se prennent des coups, des cailloux, des insultes, on leur jette des produits toxiques au visage, et eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. T'es pompier, tu veux ranimer quelqu'un en lui faisant du bouche à bouche, aujourd'hui t'as un gars qui est derrière qui peut t'agresser en disant « mais t'es un gros pédé, toi !» Je vais vous dire, Nagui, je ne comprendrai jamais une société qui manque de respect à des hommes qui éteignent des feux, mais qui continue de voter pour ceux qui soufflent sur les braises.
Merci,
Frédéric.
Et vive les pompiers!
Et rappelons que cette insulte est totalement homophobe, évidemment. Ah, évidemment. Elle était dans le contexte pour dénoncer ce genre de choses. Justement, tiens, qu'est-ce que vous avez retenu, Alexis Le Rossignol, de cette émission et du livre de Mazarine Pinjot?
Oh,
qu'il faut se méfier les Égyptiens parfois. Hein,
Tanguy Passiro.
Que j'ai envie de le lire, tout simplement.
Albert Algou.
Bah, outre les thèmes évoqués, le roller derby, et il y a un grand poète qui est évoqué, c'est Constantin Cavafy, au cœur du livre, qui est un très grand poète. On trouve ses œuvres Poésie Gallimard, simplement, en poche, voilà, Constantin Cavafy.
Frédéric Sigrist.
Mais qu'on a passé un très bon moment avec Mazarine, mais qu'elle s'en souviendra pas parce qu'elle oublie tout.
Ouais, je trouve ça hyper courageux de la part d'une agrégée de philosophie de venir parler culture dans cette émission.
Bravo. Leïla,
moi, ce qui m'a passionné, c'est comment Mazarine, vous parvenez à démontrer dans le bouquin comment l'omerta familiale, et elle est là depuis le départ, inscrite presque dans les gènes des jeunes filles. Et j'incite tout le monde à le lire et surtout à lire à plusieurs reprises le prologue.
Il est formidable.
Le prologue qui est d'une. Parce qu'on n'a pas parlé du style aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de l'histoire, mais c'est un bouquin qui, je le souhaite, ira très loin en termes de récompense, de reconnaissance, en tout cas de vente, quoi. Vraiment, je tenais à vous féliciter.
Mazarine Pinjot, qu'est-ce que vous aimeriez justement que un lecteur, je sais pas, tire comme leçon, comme enseignement, ou fasse comme commentaire après avoir lu votre livre ?
Oh là là, c'est difficile ça. Ben, tout pareil que Leïla. Exactement les mêmes mots.
En tout cas, moi, sincèrement, j'encourage les garçons à lire ce livre. Alors évidemment, les filles, pour qu'elles libèrent leurs paroles, on l'a beaucoup dit, mais c'est pas, je crois pas que ce soit la faute des filles de se taire. Je pense que c'est la faute des garçons de ne pas comprendre à quel moment ils agissent bien ou mal, et de leur dire que en quelques secondes, on peut bouleverser, foutre en l'air la vie, non pas d'une personne, mais de plusieurs personnes, parce que ça trouve un écho aussi. Il y a une onde de choc autour de la victime dans votre livre.
Et c'est un objet littéraire. C'est important aussi de dire que c'est un objet littéraire, et ça échappe au genre.
Se taire, c'est chez Julliard, signé Mazarine Pinjot. Des excuses à présenter, Daniel.
Oh, bien sûr, déjà. Désolé pour Mazarine Pinjot, qui, comme de nombreux invités, pensait sottement pouvoir répondre quand on lui posait des questions. Oh la naïve. Ça se voit que vous n'écoutez pas l'émission. Hein. En même temps, venir parler d'un livre qui s'appelle Se taire face à Nagui, c'était trop risqué. Désolé pour tous les Égyptiens qui nous écoutent et qui n'ont pas aimé être associés à ce personnage violent, alcoolo, égoïste, dominateur qu'est Nagui. Ouais. C'est vrai que c'est moche, mais en même temps, parfois, la vérité est laide. Moi-même, cette proximité me fait me sentir, comment dire, un peu sale. En même temps, j'aime bien ça, le manque d'hygiène, et je dis merci Nagui. Désolé pour Mazarine Pinjot encore une fois, qui, on l'a compris ce matin, va sûrement oublier tous les bons moments passés ce matin. C'est vrai qu'on a été bon, c'est vrai qu'on a été fin, c'est vrai qu'on a été drôle, et c'est vrai surtout que ça n'arrive pas tous les jours. Pratiquement jamais. Bah d'ailleurs, je crois que c'est la première fois. Enfin, ça arrive maintenant que jamais.
Merci beaucoup Mazarine.
Merci à vous.
Portez-vous bien. Passez toutes et tous un bon week-end. On se retrouve lundi avec Audrey Fleurot et Didier Bourdon dans la bande originale. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.